Accès libre avec Luc Fortin.
Salutations, ce lundi 11 mars. J'espère que vous allez bien à la maison. Christiane Campagnan est responsable de la recherche. Elle qui va venir faire son tour un petit peu plus tard. Il y a Jean-Sébastien Laliberté qui est devant moi. Monsieur Laliberté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Vous aviez l'air grognon avant l'émission, mais là, vous avez plein de sourires dans la voix.
Vous êtes
un bon acteur.
Je suis quelqu'un de complexe, mettons ça comme ça.
OK, OK. Mais content de te retrouver. Aujourd'hui, entre autres, les nouvelles normes ou la nouvelle norme québécoise pour la fabrication des fauteuils roulants. Je ne savais même pas qu'une norme du genre n'existait pas, devrais-je dire. Apparemment que c'est une première au Canada. On parle à deux photographes. Ils croient en l'être humain et nous le proposent sous toutes ses formes dans leur projet Portrait de Montréal. Si la semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux différentes façons de financer les adaptations à un édifice de type touristique, cette semaine, on regarde plutôt les constructions domiciliaires. Et on démarre avec une application qui permet aux personnes privées de la parole de parler avec leurs yeux. Au téléphone avec moi, Étienne Devillers-Sidani, qui est neurologue. Il est de l'Institut neurologique de Montréal, entre autres, fondateur et président directeur général de de l'entreprise Inodem. Bonjour Étienne Devillers-Sidani, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien et vous?
Oui, merci, c'est gentil. Je voulais, quand j'ai vu l'article sur Pigio, qui est cette application qui permet aux personnes privées de la parole de parler avec leurs yeux, ça m'a à la fois fasciné, mais je me demandais, est-ce que c'est une technologie qui existait déjà et que l'on a adaptée justement pour des gens dans cette situation-là, ou au contraire, il pourrait y avoir là développement d'un marché dans d'autres types de commandes oculaires pour d'autres marchés?
Ben, c'est une excellente question. Écoutez, cette technologie-là de suivi du mouvement des yeux pour contrôler un appareil, c'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais la différence avec notre application, c'est que les technologies actuelles sont très, très coûteuses. Mmh. C'est des appareils comme vous vous souvenez peut-être de Stephen Hawking, qui avait la maladie de Lou Gehrig, qui communiquait avec ses yeux. C'est un appareil qui coûte 10 ou 13 000 $ et étant donné son coût, au Québec ou partout en Amérique du Nord et aussi en Europe, bien, il faut qu'on soit incapable de parler pour plus de 6 mois pour avoir accès à un remboursement. Parce que c'est très coûteux. En plus, la technologie qui faisait fonctionner ces systèmes-là utilise l'infrarouge, des senseurs infrarouges qui sont donc incompatibles avec les lunettes qui bloquent l'infrarouge. Ah. Donc, si on porte des lunettes, on ne peut pas les utiliser. Si on est dehors, on ne peut pas l'utiliser non plus. Donc, moi, je me suis dit, il y a 2 ans, peut-être qu'on pourrait faire ça avec la caméra d'un appareil mobile comme un iPad, par exemple.
Est-ce que la difficulté pour ceux qui portent des lentilles cornéennes est du même type?
Non, c'est non, pas un problème pour les lentilles cornéennes. Okay. Je vous réponds comme ça, mais pour nous, c'est pas un problème. Pour les appareils à infrarouge, c'est des fois un problème. Okay. Ça rend l'appareil un peu plus imprécis. Okay. Donc, on a développé cette technologie-là dans les 2 dernières années qui permet aussi de ne pas avoir à requérir un distributeur spécialisé. Donc, on n'a pas besoin de passer par un centre de réhabilitation, un centre de rééducation. Si on a un iPad, on peut simplement télécharger notre appli pour pouvoir l'utiliser.
Donc, j'entends pas de téléphone, mais vraiment iPad, la tablette.
Ben, on commence avec la tablette la tablette a un écran un peu plus grand, donc c'est un peu plus facile pour nous de détecter les mouvements, mais éventuellement, ça va fonctionner aussi avec un téléphone intelligent.
Étienne, lorsque l'on parle de personnes privées de la parole, on parle de qui?
Bon, ben alors, je vous ai mentionné quelqu'un comme Stephen Hawking, qui avait la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Mm-hmm. À l'Institut neurologique de Montréal, on est un centre de référence pour ce genre de personnes, donc l'idée m'est venue comme ça. Mais il y a plusieurs autres problèmes neurologiques qui causent un problème à parler, que ce soit la maladie de Guillain-Barré, le syndrome de Guillain-Barré ou, aussi des AVC. Il y a plusieurs autres situations dans lesquelles seulement les yeux deviennent la façon de communiquer. Donc, on voulait pas justement aider seulement les personnes qui ont une maladie spécifique, mais tous les gens qui ont aussi des enfants qui sont incapables de parler à cause de maladies neuromusculaires, comme la maladie la spinal muscular atrophy, excusez-moi en anglais, c'est je suis plus habitué de travailler en anglais.
Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça peut même aider des gens qui ont des maladies ou des problèmes de locution temporaire, là, Guillain-Barré ou un AVC, c'est le genre de truc réversible et peut-être même que la convalescence pourrait être plus courte grâce à un aide comme celui-là.
Mais tout à fait. En fait, on a même été approché par des hôpitaux aux États-Unis, des gens qui sont aux soins intensifs, même qui ont un tube dans la gorge parce qu'ils ne peuvent pas parler comme ça, n'ont pas accès à toutes ces technologies-là. La maladie de Guillain-Barré qui est considérée comme étant quelque chose de réversible, mais quand même, ces gens-là ne peuvent pas communiquer pendant plusieurs mois, souvent. Donc, nous, on s'est dit, mais avec un système qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup moins coûteux, on pourrait rejoindre ces personnes-là et leur donner la possibilité temporairement d'utiliser ce système. Donc, ces gens-là, maintenant, n'ont accès à rien. Si vous avez une tumeur cérébrale, vous n'avez pas le bon diagnostic, eh bien, vous n'avez pas accès aux technologies actuelles.
Okay.
Donc, c'était vraiment l'effort qu'on a fait, c'était pour pouvoir rejoindre toutes ces personnes-là qui n'ont pas accès maintenant.
C'est le moment pour moi de lancer du sable dans l'engrenage. Je rappelle que je parle avec Étienne Devillers-Sidani, qui, lui, est entre autres neurologue. On parle de cette application Pigio, qui est encore en développement, je crois, dans le sens pas sur le marché. Là, on est quoi, en test bêta ou...
Exactement. Okay. Donc, c'est pas du sable dans l'engrenage.
Non, il n'est pas arrivé encore, le sable.
D'accord. oui, c'est encore en phase de bêta testing, de test bêta, parce qu'on veut vraiment être certain de répondre aux besoins des gens. Donc, on est sur le terrain maintenant à l'Institut neurologique et bientôt probablement au CHUM aussi, une chaîne d'hôpitaux aux États-Unis. Donc, on veut recevoir la rétroaction des gens pour être certain de vraiment l'adapter pour que ça réponde aux besoins. Bon. Donc, ça devrait être disponible probablement dans un mois ou deux, à peu près, au grand public.
Ce que je comprends, c'est que lorsque l'œil regarde et fixe des pictogrammes ou peut-être des émoticônes ou enfin bref, des symboles, ça aide l'autre personne à comprendre ce qu'on veut dire. C'est un peu comme ça. Est-ce que ça parle ou ça la lumière... disons, les symboles deviennent lumineux ou... Je sais que pour Hawking, ça parle, mais...
Oui, bien, Stephen Hawking lui enregistrait déjà des phrases à l'avance parce que c'était des réponses complexes souvent, donc c'était un petit peu, là, c'était pas très spontané, mais on suit, nous, un peu ce qui existe dans l'industrie avec les systèmes avec capteurs infrarouges qui sont donc, il y a des mots-clés que si on regarde pendant un certain temps, ça s'active et là, ça le dit à voix haute, ou on a aussi un clavier qui est libre, où on peut épeler ce qu'on veut et enregistrer justement des phrases à l'avance. Éventuellement, on va rajouter aussi un contrôle avec les médias sociaux ou YouTube, Netflix et ce genre de choses-là.
Quelles limites visuelles peuvent quand même ne pas, disons, imposer un problème pour Pigio? Que ce soit, disons, du nystagmus, où là, l'œil est en mouvement perpétuel, que ce soit, bon, dans mon cas, je pense vraiment que ma cataracte est beaucoup trop épaisse, mais des cataractes congénitales ou bien... Il y a sûrement des gens qui ont des limitations visuelles pour qui Pigio ne rend pas service.
Bien, c'est une très bonne question, en fait, mais je crois qu'on va pouvoir quand même rendre service à ces gens-là. Il faut le tester. Évidemment, le nystagmus congénital, on n'a pas testé avec cette population-là encore, mais si le nystagmus, là, on parle d'un mouvement répété des yeux là, qui bouge, s'il est constant, notre application, ce qu'elle permet de faire, c'est quand on l'utilise pour la première fois, ou on peut le refaire aussi, on peut faire une calibration, c'est-à-dire envoyer des images de nos yeux, comment ils réagissent au mouvement d'une petite... une petite croix qui se déplace à l'écran. Et si le mouvement est régulier, on peut l'annuler. en fait, dans okay. notre calibration.
Donc c'est un peu avec l'intelligence artificielle, le logiciel pourrait reconnaître qu'est-ce qui est un mouvement non contrôlé et qu'est-ce que l'œil veut vraiment regarder, même s'il se déplace un peu trop à gauche et à droite.
Exactement. Wow. En fait, c'est en plus, on veut, dans une deuxième phase, utiliser toute cette information-là pour aider au diagnostic aussi. Et donc, cette information-là, on veut l'avoir, on veut justement, on sait qu'on va pouvoir la contrôler pour pallier à la communication, mais c'est de l'information, on va créer des bases de données aussi pour comprendre mieux comment détecter les maladies et les suivre aussi, basées sur des anomalies potentielles d'une personne, d'un individu à l'autre. Oui.
Je suis curieux, on dit souvent qu'un bébé comprend avant de pouvoir parler, et peut-être s'il pouvait parler, nous, on pourrait le comprendre plus rapidement. Est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait permettre au bébé plus rapidement de s'exprimer?
Mais écoutez, très bonne idée. En fait, on a déjà des liens avec l'hôpital de Montréal pour enfants, où il y a des enfants qui, eux, ont aussi des difficultés mm-hmm. à communiquer à cause de la paralysie cérébrale, par exemple, ou d'autres maladies neuromusculaires, et qui sont non-verbaux, c'est-à-dire qui n'ont pas appris le langage encore. Et donc, on fait un effort aussi pour développer un système un module de communication qui va permettre à ces gens-là de s'exprimer, même s'ils n'ont pas encore le langage. Donc, on pourrait peut-être étudier ça chez les enfants aussi.
Ouais.
Les gens qui sont aphasiques, par exemple, qui ont eu un AVC, des fois, ne peuvent pas comprendre même les pictogrammes simples. Ils ont besoin d'images vraiment beaucoup plus claires, des proches, par exemple, des membres de leur famille qui vont vouloir pointer. Et ça, on va pouvoir faire ça aussi avec les enfants, certainement. Donc, c'est une bonne idée.
Il semblerait qu'il y ait une différence entre le mode gratuit et, disons, un mode premium.
Oui, bien, c'est sûr que, écoutez, développer une appli comme ça, c'est pas juste un jeu sur un appareil mobile. C'est quelque chose qui a demandé plus de 2 ans de travail avec des ingénieurs. Et donc, nous, on veut vraiment pouvoir continuer à livrer cette application-là de manière plus personnelle.
Ouais, une mise à jour constante. Mais est-ce que ça veut dire une mensualité pour les utilisateurs?
Ce serait ça notre modèle. Donc, maintenant, j'étais à l'hôpital de garde la semaine dernière, d'ailleurs, et je voyais que c'était pour avoir la télévision, c'était 20 $ par jour. Et donc, ça, c'est pour avoir la télévision de base. Nous, on propose quelque chose qui est plus 30 $ par mois pour pouvoir avoir accès à la version premium. Donc, n'importe qui peut télécharger l'appli, voir si ça fonctionne. Et on a des fonctionnalités de base avec l'appli de base. Et sinon, si on veut avoir Netflix, YouTube, un clavier personnalisé, tout ça. Donc ça, ce serait la version qui serait 30 $.
Ouais, je vois que les arguments de vente ont déjà commencé à être élaborés. Selon vous, combien de temps avant son implantation en milieu hospitalier?
On espère pas plus de 2 mois maximum.
OK, avant l'été, là.
Oui. Au printemps, c'est certain.
OK, wow. Mais en tout cas, je trouve ça fabuleux. Vraiment, vraiment, ça semble vraiment, vraiment intéressant. Et qui sait les possibilités avec ce Pigio pour l'avenir. Étienne de Villers-Sidani, en tout cas, il est un paquet de choses, là, dont on va dire neurologue et président directeur général de l'entreprise Enodem. Je présume que c'est Enodem qui est surtout derrière ça, avec un peu d'assistance financière d'un peu tout le monde?
Ben, c'est Inodem qu'on a développé ça, mais quand même, on a un lien privilégié avec l'université et l'hôpital neurologique, le CUSUM, qui nous permettent d'accéder justement aux gens qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment un partenariat.
Salut à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.
J'ai entendu ça cette fin de semaine alors que j'écoutais du Joni Mitchell One Week Last Summer. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça s'infile très bien, ça s'insérait bien entre deux entrevues. Ce qui nous donne l'occasion de joindre également par téléphone Julien Racicot, lui qui est directeur fondateur de la fondation Adapte-toi. Julien, merci beaucoup d'être là.
Bonjour, merci de me recevoir.
La fondation existe depuis combien de temps avant de parler là, des différentes sources de financement pour rendre une résidence accessible? Adapte-toi existe depuis combien de temps?
Adapte-toi existe depuis le mois de juillet 2015. Je vous dirais que les deux premières années, on a travaillé vraiment à bâtir les bases solides de la fondation pour être en mesure de répondre pleinement là, à la mission de la fondation. Et depuis, je vous dirais, un an et demi environ, on travaille là, afin d'amasser les sommes nécessaires et surtout d'intervenir auprès des personnes lésées médulaires pour les soutenir dans l'adaptation de leur domicile.
L'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on prête de l'argent, disons, avant que le PAD puisse intervenir parce qu'on connaît les délais, ou bien on donne des subventions supplémentaires lorsque différentes sources de financement ne couvrent pas toutes les dépenses?
Exactement. Bien, la mission de la Fondation Adapte-toi, c'est vraiment de bonifier l'aide qui est déjà offerte par les différents services. En fait, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais par les services gouvernementaux, notamment le programme PAD. Donc, nous, on ne veut pas interférer à cette aide-là qui, est déjà, qui est déjà offerte, mais plutôt bonifiée. Donc, on peut intervenir de deux façons. Soit, une fois que le programme PAD est intervenu, on vient identifier les besoins qui ne sont pas comblés. Et là, on va déterminer si on vient combler la totalité de ces besoins-là ou une partie. Sinon, lorsque les délais sont trop longs pour le programme PAD, on va identifier les besoins qui sont primordiaux, qui doivent être comblés le plus rapidement possible. Mais qui, malgré qu'ils soient comblés, le PAD va quand même pouvoir intervenir et donner le maximum. Je m'explique. Advenant que il y a une rampe d'accès qui doit être installée, les ouvre-portes, l'accès à la salle de bain. En faisant nos calculs, on va pouvoir facilement identifier que le coût total des adaptations va dépasser l'aide maximale qui peut être offerte par le PAD, qui est
16 000.
Souvent de 16 000.
Ouais.
Donc là, bien, on va couvrir les adaptations essentielles, qui sont, exemple, l'accès au domicile par la rampe d'accès, par exemple, par l'ouvre-porte. Et par la suite, on va laisser le PAD intervenir, faire les travaux. Et ensuite de ça, si les besoins ne sont toujours pas comblés en totalité, bien là, on va évaluer la possibilité de faire une deuxième intervention afin de couvrir ces besoins-là là, qui ne sont toujours pas comblés.
Parce que le problème d'adaptation à domicile, si je comprends bien, en tout cas dans la définition que j'en ai lue, on dit qu'on adapte les pièces principales et comme on parlait de portes ou de façon à pouvoir jouir de la maison le plus possible. Mais je ne sais pas, moi j'ai peut-être une chambre d'amis qui n'est peut-être pas considérée comme pièce principale, mais auquel j'ai envie d'être capable de faire le ménage, puis être capable d'aller... Est-ce que la Fondation pourrait justement poursuivre là où le programme arrête?
Oui, tout à fait, parce que nous, l'objectif, c'est de permettre aux gens d'avoir le plus d'autonomie possible, d'être le plus mobile possible dans leur environnement afin de pouvoir vivre pleinement là, au quotidien. Donc, je pourrais vous donner un très bon exemple. On est intervenu auprès d'une famille où la petite fille s'est retrouvée paralysée suite à une tumeur à sa moelle épinière. Et là, une des problématiques qui se pose, c'est que la salle de jeu est au sous-sol. Et là, évidemment, pour le programme PAD, c'est pas un besoin essentiel. Mm-hmm. En fait, ça pourrait être... C'est très discutable.
C'est discutable, oui, mais...
essentiel. Je pense que pour un enfant de cet âge-là, ça devient essentiel. Mais bon, on y reviendra.
Ouais.
Donc, nous, on est en train de faire des démarches pour permettre à cette jeune fille-là d'avoir accès au sous-sol, d'avoir accès à sa salle de jeu. Éventuellement, cette jeune fille-là va vieillir. Mm-hmm. Donc, potentiellement, quand elle est adolescente, elle va vouloir avoir sa chambre au sous-sol.
Elle va avoir amené son chum dans le sous-sol.
Avoir son espace à elle. Ben oui,
ouais,
c'est ça. Donc, pour nous, c'est important de penser à long terme puis de voir répondre aux besoins qui sont au-delà de ce qui peut être identifié par le PAD comme besoin essentiel.
La semaine passée, on s'est intéressé un petit peu à la même question, mais du côté touristique, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de types de subventions, de programmes. Combien y a de sources de financement pour rendre une résidence accessible?
Écoutez, je vous dirais, à ma connaissance, à notre connaissance, à la Fondation Adapte-toi, la seule aide gouvernementale qui existe, c'est celle offerte via le programme PAD, le programme d'adaptation de domicile qui est chapeauté par la SHQ. C'est un programme provincial et, bon, vous connaissez un peu les montants qui sont à faire. Normalement, lorsque c'est des travaux, des adaptations qui sont recommandées par une ergothérapeute, l'aide offerte peut aller jusqu'à 16 000 $. Lorsqu'il y a des équipements spéciaux, trois équipements spéciaux ou plutôt des équipements autres.
Adaptés, élévateur.
Élévateur, ouais. Lève-personne, ouvre porte. Lorsqu'il y en a trois au moins, bien là, il y a une subvention supplémentaire de 7 000 $ qui peut être offerte.
Par la SHQ et encore.
Toujours par la SHQ via le PAD. Et à ce montant-là, selon les revenus du ménage, les revenus familiaux, bien là, pour des personnes à faible revenu, il y a une aide supplémentaire qui peut être offerte jusqu'à 10 000 $. Donc, dans certains cas, dont un jeune homme à qui on est venu en aide il y a quelques mois, la personne peut avoir accès jusqu'à 33 000 $ pour adapter son domicile. Mais, dépendamment du niveau d'handicap, je vous dirais que souvent, ce qui arrive, c'est qu'encore là, c'est pas suffisant.
Il y a combien de... Bon, mis à part Victoriaville, est-ce qu'il y a d'autres villes qui peuvent même complémenter financièrement les besoins si le programme ne couvre pas tout?
À ma connaissance, non.
OK. Il y a que Victor.
J'ai pas entendu parler de ça. Okay. Et puis, dans le fond, je pourrais revenir à votre question précédente. Au-delà du programme PAD, au-delà de l'aide, comme par exemple celle qui est offerte par le Victoriaville, il y a de l'aide qui peut être offerte aussi via des associations ou des organismes de bienfaisance comme la Fondation Adapte-toi qui, elle, vient en aide aux personnes qui sont atteintes d'une lésion de la moelle épinière, donc qui sont retrouvées paralysées suite à une lésion de la moelle épinière. Et il y a d'autres organismes également qui peuvent aider ces personnes-là ou d'autres personnes en situation de handicap autres que les émédulaires.
Oui.
Mais au niveau des programmes municipaux ou gouvernementaux, au-delà du programme PAD ou de l'aide qui est offerte là, par la municipalité de Victoriaville, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup.
Il faut aussi préciser que si tu hérites d'une blessure importante alors que tu fais partie des forces armées, si tu as un accident de la route, ben là, ce sera la SAAQ. Sinon, ça peut être la CNESST si c'est un accident de travail. Est-ce que ces programmes s'équivalent ou vraiment il y a des personnes handicapées plus riches que d'autres?
Oui, on peut dire ça comme ça. Disons qu'il y en a qui sont plus riches au niveau de l'accès à l'aide offerte. Ça, c'est... C'est évident. Exemple, les victimes d'actes criminels, il y a un regroupement, il y a un fonds d'aide pour ça, un regroupement, et l'aide qui est offerte est vraiment pas la même.
Ouais, ça a été long.
Celle offerte aux personnes accidentées de la route ou aux personnes accidentées du travail. Puis je vous dirais que je suis pas au courant de l'aide qui est offerte là, aux anciens combattants, mais probablement qu'il y a une certaine disparité aussi. Entre l'aide qui leur est offerte et les autres programmes qui existent.
Ça fait combien de temps que le programme d'adaptation domiciliaire n'a pas bougé? Le 16 000, il est là depuis combien de temps?
Bon, en tout cas, je vous dirais que depuis mon accident, qui a eu lieu en 1999, à ce moment-là, l'aide qui était offerte était la même
que
ce qui est offerte maintenant.
Voyons donc! OK. Je suis ahuri.
Je ne sais pas depuis quand, mais je peux vous dire que depuis que j'ai eu mon accident, ce qui remonte à presque 20 ans, c'était le même montant qui était offert. Et là, on s'entend que les coûts ont augmenté depuis cette époque-là. Tout a augmenté au niveau des dépenses,
Niveau
des coûts.
Ben oui.
Sauf au niveau niveau de l'aide qui est offerte.
Ouais. Parlons de crédit d'impôt. Est-ce que ça, c'est quand même intéressant? Parce que je crois qu'il y en a tant au provincial qu'au fédéral.
Crédit d'impôt, écoutez, premièrement, tout ce qui est équipement d'adaptation lié à l'accessibilité, la majorité, la majorité de ces équipements-là, on n'a pas de taxes à payer.
OK.
Donc, déjà là, c'est
un
point quand même assez qui n'est pas négligeable. Et au niveau des exemptions d'impôts, des retours d'impôts, je pense que la meilleure personne pour nous conseiller à ce niveau-là, c'est notre comptable.
En tout cas, gardez vos factures. Vous laisser aller, Julien. J'ai plus de temps, malheureusement, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça a été éclairant. Et il faut faire des recommandations là, pour que le PAD soit plus généreux. Ça n'a pas de bon sens.
Ça fait bouger les choses, effectivement.
On revient avec Christiane Campagna de l'autre côté dans deux minutes pour ceux qui nous écoutent en direct. Sinon, pour les balados diffusés, on revient tout de suite. Et on va essayer de voir autrement avec Christiane Campagna, elle qui lit les journaux pour nous, entre autres choses, les médias sociaux également. Madame Campagna?
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que tu as glané pour moi?
L'archéologie.
Oh, OK. Les handicapés de l'époque, là?
Ben oui, c'est un article du Figaro et un balado que j'ai écouté en fin de semaine de France Inter.
Combien le pad valait dans le temps de Toutankhamon?
Je le sais pas, mais probablement que pour Toutankhamon, il n'y avait pas des grosses limites financières.
C'est vrai que, ben pour lui en tout cas.
Quand c'est toi qui règnes,
c'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de limites sur ton pad. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un livre qui sort ces jours-ci en France de Valérie Delattre, qui est archéologue, anthropologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Je pense que c'est ceux qui font des fouilles avant qu'il y ait des travaux. Et elle a lancé un livre sur le handicap à travers les âges, vu à travers l'archéologie.
Okay.
C'est un défi qui lui a été lancé par un ami qui est para-athlète d'ailleurs, Riyad Salem, champion d'Europe de basket et de rugby fauteuil.
Qu'est-ce qu'elle a trouvé?
Elle a trouvé... tout d'abord, il faut savoir que l'archéologie funéraire peut seulement trouver les handicaps qui ont touché les os.
Okay.
Il faut qu'il y ait des traces sur les os. Donc, malgré le fait que ça exclut donc la surdité, la cécité, la plupart des déficiences intellectuelles qui n'ont pas de traces physiques et autres handicaps invisibles, ben malgré ça, elle dit en trouver sur vraiment beaucoup, beaucoup, un corps sur sept. Parce que le handicap physique était vraiment très courant à une époque où les fractures des jambes, à l'époque où la gangrène amenait des... Donc, c'était vraiment très, très répandu. Et selon elle, ça contribuait à normaliser le handicap pour beaucoup de sociétés pendant longtemps et à faire en sorte qu'il y avait moins d'exclusion puisque c'était si courant. On pourrait même, dans l'autre sens, se demander aujourd'hui...
on n'a pas de preuve de ça. On peut pas savoir comment une société... aidait ces personnes handicapées?
Ça dépend, parce que pendant longtemps, on enterrait les gens avec des objets.
Okay.
Souvent, on leur confiait des objets qui allaient pouvoir les aider pendant leur voyage.
Mm-hmm.
Et souvent, dans le cadre d'enfants ou de personnes en situation de handicap, on les enterrait pas seuls.
Pour qu'il y ait
quelqu'un avec eux.
Non, quelqu'un
d'autre, par exemple, avec eux.
Ah, OK.
Mais c'est un livre que, quand je mettrai la main sur le livre, on pourra y aller davantage dans les détails, ou on peut toujours essayer de parler à la dame. Mais elle souligne aussi que le paradoxe, c'est que souvent l'éducation a contribué à l'exclusion, puisqu'on s'est mis à créer des écoles pour enseigner aux personnes sourdes, des écoles pour enseigner aux personnes aveugles, et que ça a contribué à sortir les gens de la communauté.
Les silos. Ah ben... Puis en même temps, personne n'est contre l'éducation. Là. C'est vraiment intéressant, ça.
Oui, ça. Et un dernier petit point qui m'a frappé, c'est justement, tu parlais tout en camon, sur le nombre de personnes qui étaient des personnes de pouvoir et qui étaient en situation de handicap. Parce que quand c'était le droit divin, quand c'était de naissance que vous aviez votre pouvoir, bien, même si vous naissiez avec un handicap, c'est vous qui allez régner de toute façon. Et même que ça pouvait être davantage fréquent parce que on voulait garder le pouvoir au sein des clans, des familles. Il y avait beaucoup de mariages à l'intérieur d'une parenté très proche et que ça pouvait causer davantage de handicap.
Ouais. OK.
Alors, c'est vraiment une avenue très intéressante.
Valérie qui?
Valérie Delattre.
Bon, trouvez-nous son numéro de téléphone.
On va faire ça.
Vraiment, là, il y a des choses là-dedans, là, ça c'est sûr. Merci Christiane. On écoute Richard Séguin qui n'est pas seul, lui qui a sorti le gros orchestre. Puis ensuite, on parle à Michael et Thibault, les gars de Portrait Montréal.
Et des terres, et ne sachant plus rien des anciennes rancœurs, des détresses d'hier, des jungles de la peur, tu sauras en chemin tout ce que je te donne. Tu seras contre moi celle qui s'abandonne. Nous passerons très haut par-dessus les clameurs, et tu ne vivras plus de perfides rumeurs, et loin des profiteurs, des lieux de pestilence, tu entendras parler les mages du silence. Alors tu connaîtras la musique à tes pas, et te revêtiront les neiges des sagas. Nous ne serons pas seuls à faire le voyage, d'autres nous croiseront parmi les paysages, comme nous invités de ce jour qui naîtra. Nous devrons les chérir d'un amour jamais là, eux aussi révoltés, vivant dans les savanes, répondront à l'appel secret des caravanes. Après le temps passé dans l'étrange et l'austère, on nous accueillera les bras dans la lumière, l'espace ayant livré des paumes du sommeil, la place des matins que nourrit le soleil, au monde insoupçonné, unissant dissidence, te faisant échapper des cris d'incontinence. Nouvelle-né amour, nous n'aurons pas trahi, nous aurons retrouvé les rites d'aujourd'hui, le bonheur à l'affût, dans les jours inventaires, notre maison paisible. Et les toits de nos frères, le passé et le présent, qui ne se voudront plus, les ennemis dressés que nous avons connus. Nous partirons de nuit. Pour l'aube des mystères.
Dans les circonstances, les poètes n'ont plus de circonstances personnelles. Leurs circonstances...
Oh, j'ai oublié, même si c'est moi qui t'ai donné le titre, Jean-Sébastien, c'est quoi, La recherche du monde et de l'amour? Non, c'est...
J'ai envie officiellement de dire Luc pour la cinquième fois depuis cinq minutes.
C'est moi en plus qui t'ai envoyé la suggestion ce matin en partant de chez moi.
Oui, écoute, c'est pour retrouver le monde et l'amour.
Pour retrouver le monde et l'amour. Tu me disais que c'est... ça, je savais pas, par exemple. Ça, c'était du Miron.
Oui. OK. Belle poésie de Gaston Miron.
Donc, c'est tiré des hommes... 12 hommes rapaillés. Dans ce cas-ci, c'était la symphonie. Moi, ce matin, je l'avais écouté beaucoup plus studio, là, avec la guitare de Richard. Thibaut Caron, Michael...
Témère.
Je sais pas pourquoi j'allais dire Timmerman.
Timmerman? C'est parce que j'ai des origines juives, peut-être. Alors, le man permet de mieux identifier, je sais pas.
Ah, t'as raison, Jean-Sébastien qui me souffle, parce qu'on connaît un Thibaut Timmerman.
Ah, d'accord.
Alors oui. Là, j'ai fait le lien avec... Merci Jean-Sébastien, je me sens déjà mieux. Les gars, moi je vous admire. C'est pour ça que je voulais vous recevoir ici, parce que entre autres, vous m'avez fait passer une très belle soirée il y a à peu près 10 jours, lorsque vous m'avez demandé d'être un livre vivant. J'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement, de un. De deux, des gens que j'ai pu aider et des gens qui ont pu m'aider. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont joué le rôle de livre vivant. Plusieurs ont aimé leur soirée. Votre but, vous, à Portrait de Montréal, c'est de mettre du monde ensemble qui autrement ne se verrait pas, ou à tout le moins, que ce soit face à face, ou en lisant un livre, j'apprends à découvrir telle ou telle personne, en regardant une photo, j'apprends à connaître. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, mais avec aussi la visée finale, je pense, c'est d'espérer que les gens puissent le faire sans avoir besoin de nous.
Ouais.
Sans avoir besoin qu'on fasse cette mise en contact, que de redonner le goût aux gens d'apprendre à connaître l'étranger, finalement.
Ça, c'est la voix de Michael. Mm-hmm. Les deux se ressemblent pas mal. Ah. Alors, peut-être que vous allez avoir un petit peu de difficulté à la maison. Même moi, je vais peut-être me tromper un moment donné. Là. Mais,
ça ne voudra pas.
Non. Thibaut, lorsque... Lorsque vous avez décidé... Bon, toi, t'es arrivé sur... Mais pas sur le tard, mais t'es arrivé alors que Michael avait déjà commencé son idée d'imiter le gars de New York?
Non, on l'a démarré ensemble.
OK, ouais. OK. C'est une idée que vous avez empruntée à New York.
Oui, absolument.
OK. Et il fallait déjà avoir une âme tournée vers l'autre pour vouloir démarrer un projet comme celui-là.
C'était peut-être plus une envie de se tourner vers l'autre. Ouais. C'est parce qu'on est tous les deux introvertis à la base. Et on voulait retrouver un moyen d'aller vers l'autre. Ce qu'on avait un peu perdu dans nos jobs à l'origine.
Qui était de faire de l'argent, qui était de l'HEC.
Ouais, c'est ça, essentiellement de vendre des choses inutiles. Donc,
à des gens qui n'en ont pas besoin et qui n'en ont pas les moyens, souvent.
Voilà.
Okay.
Donc on essayait de retrouver ce contact avec le monde. Et puis de nous pousser nous-mêmes à sortir, à aller à la rencontre des autres, ce qui n'est pas forcément naturel à l'origine pour nous.
Mm. Bon, rassurez-moi, là, Michael, quel préjugé te reste-t-il? J'ai pas envie de sortir d'ici en me disant oh, « c'est des saints ces gars-là et moi je suis un deux de pique ».
C'est marrant parce que je lisais, où est-ce que j'ai vu ça? Hier, je suis tombé sur une étude qui disait que les gens qui ont finalement la plus grande mise en contact ou la plus grande ouverture d'esprit dans leur vie sont finalement ceux qui sont le plus à même de garder leurs préjugés ou de garder leur biais parce que... parce que dans ma vie, finalement, je suis tellement ouvert d'esprit que peut-être en arrière-pensée, ça me permet de... Attends, c'était quoi le... Si, je me souviens, c'est Kaina, j'ai oublié son nom de famille, de chez G-Soft, qui disait qu'elle avait fait un test. Son conjoint est d'origine haïtienne, son enfant est donc métisse. Et ils ont fait un test et les deux avaient quand même des préjugés négatifs ou des biais négatifs envers les personnes de la communauté noire.
OK.
Donc, est-ce qu'on a encore des préjugés? Je pense que oui. Ça ne veut pas dire que je vois quelqu'un dans la rue, je ne sais pas. Là, je montais, on est dans une bâtisse où je viens de découvrir qu'il y a un collège des îles de la Madeleine, le cégep des îles de la Madeleine, qui recrute principalement des étudiants indiens. Ça ne veut pas dire que je vais voir des indiens puis m'imaginer qu'ils doivent manger du curry le soir ou je ne sais pas.
Ouais.
C'est pas des préjugés comme ça, mais je pense qu'on a tous des biais cognitifs inconscients sur les gens qui sont différents de nous. Est-ce que c'est négatif après? Non, ça dépend ce qu'on en fait.
Thibaut, au départ, qu'est-ce que vous vouliez de faire de Portrait Montréal et qu'est-ce que c'est devenu? En ce sens, des fois, on a une idée et finalement, c'est autre chose qui se passe.
C'est un peu ce qui s'est passé. On avait une idée de départ, mais c'était plus d'avoir du fun et d'aller à la rencontre des gens. Mais on n'avait aucun plan sur l'avenir, on avançait vraiment au jour le jour, puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne tout le temps.
On n'en a toujours pas.
Ouais, on est toujours très désorganisés tous les deux et le portrait de Montréal n'est pas enregistré, c'est pas une structure officielle, c'est complètement informel et
très organique.
Très organique. Mmh. Donc il y a pas, on n'avait rien prévu, on n'avait rien réfléchi, on est juste allé dans la rue à la rencontre des gens et puis puis on est allé à partir de là.
Toi Thibaut, t'étais photographe à la base. Michael, est-ce que tu as appris la photographie sur le tard?
Ouais, ouais, absolument. Thibaut okay. a été mon premier formateur. C'est lui qui m'a appris à me servir du mode manuel de mon appareil photo, à bien comprendre. Et puis ensuite, c'est à force de sortir tous les jours faire des photos que...
Mais les photos, ça aurait pu être froid. Il y aurait pu, si on était resté dans la dimension de la photo, justement, avec, disons, un certain film, une certaine pellicule, disons, un saran wrap entre nous et elle. Parce qu'il y a une distance entre la photo. Mais là, avec le livre, avec... les bibliothèques vivantes où vous mettez les gens un en face de l'autre, vous avez rompu ce mur invisible qui aurait pu rester avec la photo. Est-ce que vous aviez pensé à ça?
Ça a toujours été quelque chose à laquelle on pensait. Je pense de sortir du virtuel surtout,
ouais.
Du texte et de la photo virtuelle qui sont sur le web, et puis de pousser les gens à aller à la rencontre des autres, mais dans le monde réel. Physiquement, donc les bibliothèques vivantes, puis le livre qui est papier, c'est deux façons de rendre ça un peu plus concret.
Ouais. En fait, l'appareil photo, c'est un petit peu une baguette magique qui te permet de rentrer en contact avec n'importe qui, si tu l'utilises correctement. D'ouvrir n'importe quelle porte aussi, d'avoir accès à des endroits où tu n'aurais pas eu accès autrement, parce que l'appareil photo est le prétexte de me laisser rentrer. C'est le prétexte aussi pour moi d'expliquer pourquoi je viens de parler en tant que parfait inconnu à un coin de rue. C'est parce que j'aimerais faire une photo. Et pour tous les gens qui n'ont pas d'appareil photo avec eux, qui ne sont pas photographes, ben, si on leur enlève ce prétexte-là, qu'est-ce qui reste? C'est plus difficile d'aller voir un inconnu dans la rue si tu n'as pas une bonne raison d'aller le voir. Donc les bibliothèques vivantes, c'est un petit peu essayer de pallier à ce problème-là, de mettre les gens directement dans de les placer dans un lieu où ils peuvent se parler entre inconnus sans qu'il y ait de gêne finalement.
New York, est-ce que vous avez... pris des, dont démarrer des angles que New York n'a pas utilisés, et est-ce que New York a fait l'inverse, c'est-à-dire utilise des moyens que vous dites non, nous ça ne nous touche pas ça.
Je pense que dans la forme c'est un peu différent, l'approche okay. est un peu différente, mais le concept reste le même, c'est vraiment approcher des inconnus et publier une photo et puis un morceau de l'histoire qui nous a été conté. Après on a essayé des choses, justement la bibliothèque vivante, ça je pense pas qu'il ait déjà fait ça. Le livre, oui, effectivement. La vidéo, il a pas mal développé ça. Donc on a peut-être des façons différentes de présenter la chose. Mais...
Le livre, vous avez perdu combien là-dedans? Parce que j'imagine que c'est ça qui est arrivé là.
Non, on a eu la chance qu'un éditeur vienne nous voir et nous propose d'éditer ce livre. Donc nous, on n'a rien eu à dépenser pour faire ce livre.
Est-ce qu'il est encore disponible?
Il est encore disponible, je pense, surtout sur commande. À mon avis, il n'y en a plus tellement dans les rayons, mais on peut le commander auprès des libraires.
Ouais. Mais continue.
J'allais dire, on n'a pas gagné notre vie avec. On s'est fait un petit peu d'argent de poche, là, mais je veux dire, on n'aurait pas pu compter là-dessus pour gagner nos vies.
Maintenant. Ouais. À un moment donné, vous avez rencontré Kevin Breton.
Ouais.
Et là, vous avez décidé d'ajouter une flèche à votre carquois. Le métro. Mmh. Le métro qui n'est pas accessible. Et ça, c'était même avant le recours collectif. Pourquoi avez-vous été touché par l'idée du métro non accessible?
Quand on a rencontré Kevin, je pense que c'est parce que nous-mêmes, on n'était pas conscients de ça du tout. Quand il nous a expliqué ça, on n'était absolument pas conscients qu'il n'y avait pas...
Vous l'avez rencontré comme, disons, comme portrait?
Un 5 à 7 Urbania. Ouais.
OK.
Et c'est ça, il nous a parlé de ce sujet-là.
Bienvenue,
et nous, on
était...
on sait ça, nous aussi. Et c'est ça, c'est lui qui nous a plongé là-dedans. Et puis, ça nous a tout de suite paru comme une grande injustice et quelque chose sur lequel nous, on pouvait travailler avec notre photo et puis notre façon de raconter les histoires.
Ce que vous vouliez faire à l'époque, je ne sais pas si ça a été réussi, c'est de donner une histoire... avec chacune des stations.
Ça a été fait.
C'est ça que vous avez fait finalement.
Oui, ouais. On a rencontré 68 personnes.
Donc Laval n'était pas là à l'époque.
Si, ça inclut.
Oui, okay.
Ça inclut.
Je pensais que c'était 71 maintenant. OK.
Donc on a photographié une personne devant chaque station de métro pour nous expliquer comment elle était affectée par le manque d'accessibilité du métro. Donc autant on avait effectivement plusieurs personnes dans des situations de handicap qui pouvaient physiquement pas rentrer dans les stations de métro, mais aussi des gens, des mamans poussettes, des proches de personnes qui vivent avec des handicaps qui sont donc affectés parce que bah, quand ils font des plans, il faut toujours s'arranger pour que leur ami ou le membre de leur famille puisse participer au même titre que n'importe qui d'autre. Donc c'était très instructif. Et en fait, pour revenir un petit peu sur la raison pour laquelle on l'a fait, c'est que Kevin, il nous a instruit sur cette réalité-là.
Ouais.
Et c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on s'éduque, on apprend quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, bah, tu as envie de le retransmettre et de repasser le message à quelqu'un d'autre. Donc le but, c'était de faire de l'éducation collective un petit peu.
Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas comment, on regarde ça, mais je sais que vous avez une contribution, en tout cas que moi j'aimerais, dont j'aimerais profiter dans ce moment-ci. Alors je vais vous achaler, puis on regardera comment on peut. Mais j'aime votre ouverture, j'aime le fait que, à la fois, oui, on parle de handicap beaucoup et sur bien des angles, mais on parle de communauté LGBTQAE, d'immigrants, d'intégrés, de blancs qui travaillent, de mamans, de... Alors, pourquoi pas. Thibault, Caron, Michael Timmer, allez sur Portrait de Montréal, peut-être vous voulez commander le livre, peut-être que... Enfin bref, il y a plein de choses là-dedans. Puis comme je le disais, là, je veux vraiment qu'on essaie de vous donner plus de temps. Surtout pour ben, moi et les gens comme moi qui ne peuvent pas profiter du livre ou qui ne voient pas les photos. Ou, Merci messieurs. Marie Turcotte, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Marie Turcotte est là?
Elle l'était, mais je lui ai dit qu'on mettait une petite chanson de 2 minutes avant.
T'as dit
donc,
ça, hein?
Ben,
okay,
oui,
je savais pas. Okay,
on va essayer la chanson.
Vas-y.
J'ai jamais compris comment on danse le Charleston. J'ai jamais compris comment on danse le Charleston, non. Quand le ragtime joue et la scène est à moi, j'ai les bras figés et les pieds maladroits. Oui, mais si je savais, je danserais si je savais, je danserais comme ça. J'ai jamais compris comment jouer du piano. J'ai jamais compris comment jouer du piano. Quand la fanfare passe et ils se mettent à jouer, j'ai les idées lasses et les doigts fatigués. Oh, mais si je savais, je jouerais. Oui, si je savais, je jouerais comme ça.
On court dans le temps et qu'on avait quitté la partie prix Nobel de la chanson, on était rendu au tatata. Le Québec vient de se doter d'une norme sur les fauteuils roulants. Moi, ça m'a chatouillé parce que je me disais, hein, on n'avait pas encore de normes et semble-t-il que c'est une première en Amérique du Nord. Marie Turcotte, qui, elle, est directrice pour l'organisme Ex Aequo, a représenté la COFAN dans ceux et celles qui ont discuté autour de la mise en place de cette norme-là. Bonjour Marie.
Ben, bonjour Luc, ça va bien?
Ça va bien, merci. Il n'y avait pas de normes, donc les fauteuils roulants pouvaient différer les uns des autres.
Tout à fait, il y avait... Faut dire qu'il y a des normes ISO qui s'appliquent aux fauteuils roulants, okay. Les normes internationales, et que beaucoup de fabricants appliquent déjà plusieurs éléments des normes ISO. Mais moi, avec, j'étais étonnée quand on m'a approché pour ce projet-là de doter d'une norme. On n'avait pas de norme. Mm-hmm. Mais là, depuis la semaine dernière, nous en avons une.
Sais-tu, Marie, si c'est une initiative qui provient du milieu, des fabricants, de la régie d'assurance maladie du Québec?
Moi, je ne sais pas d'où origine l'initiative, mais en fait, c'est le Bureau de normalisation du Québec qui a demandé à la COFAM. La COFAM, peut-être dire pour les auditeurs, veut dire que c'est un organisme qui fait provincial, qui fait la promotion de la défense des droits des personnes ayant une déficience. Mm-hmm. C'est ça, donc... ils ont approché la COFAM pour qu'on fasse partie du comité. Et à ce comité-là, il y avait des fabricants, il y avait aussi des cliniciens, des ergothérapeutes qui prescrivent des fauteuils roulants. Il y avait aussi un représentant des transporteurs urbains et la RAMQ, qui est quand même un joueur important.
J'imagine.
La Société d'assurance, le PAD. La Société d'habitation du Québec.
Okay.
Parce qu'il y avait des gens de différents milieux.
Qu'est-ce que ça vient changer?
En fait, ça va venir, premièrement, ce qui est important de dire, c'est une norme qui n'est pas obligatoire, elle est sur une base volontaire.
Okay.
Et ça va venir encadrer quand même toute l'industrie de fabrication des fauteuils roulants. Je vais donner un exemple. Dans la norme prévoit comment le poids d'un fauteuil roulant manuel ou motorisé doit se faire.
Mm-hmm.
On vient dire comment, quelle partie du fauteuil on doit peser. Avant, ce n'était pas encadré. Certains fabricants pouvaient peser le fauteuil roulant sans appui-bras. Il y en a d'autres, c'était avec appui-bras, etc. Puis, ça veut dire pour aussi mieux encadrer, puis aussi donner l'information nécessaire à l'usager, au futur usager, mais aussi aux ergothérapeutes, ceux qui prescrivent les fauteuils roulants, qui définissent pour faire le bon choix du fauteuil roulant. Parce que les fauteuils roulants, ils ont des caractéristiques qui peuvent être différentes. Ça fait tout dépendamment des caractéristiques de base du fauteuil versus les besoins de la personne. On va faire un choix pour un type de fauteuil plutôt qu'un autre.
Avec Marie Turcotte, on parle de cette nouvelle norme dont le Québec vient de se doter pour les fauteuils roulants. Est-ce que, Marie, ça exclut des modèles qui existent actuellement et qu'on devra peut-être remanufacturer pour répondre aux normes?
En fait, les fauteuils, cette norme-là répond aux besoins des fauteuils roulants motorisés, manuels, et les bases de positionnement.
Okay.
Concernant les modèles, comme l'industrie des fabricants de fauteuils roulants était à la table, ça tenait compte de la capacité de production à l'heure actuelle, ou en fond au niveau des technologies. Mais ce que ça vit, cette norme-là, c'est vraiment... ça vient des objectifs à atteindre.
Oui.
OK, au niveau de la résistance au fauteuil roulant, sa capacité de bien composer en soie et neige là, mm-hmm. avec la corrosion, sa performance au niveau de la corrosion pour éviter qu'il corrode. Ça fait qu'on ne sait pas quel type de produit prendre, mais c'est des objectifs à atteindre.
Oui, oui. C'est intéressant et merci beaucoup pour le bulletin météo en direct. Marie Turcotte, qui est directrice de l'organisme Ex-Éco, mais qui était surtout avec nous aujourd'hui parce qu'elle a représenté au sein du comité de normalisation, la COFAN. Salut Marie, merci Jean-Sébastien Laliberté. Ça n'a pas été simple tout le temps, mais on est passé au travers et t'as encore le sourire. Merci beaucoup à Christiane Campagna. On vous souhaite une bien, bien belle semaine. Il fera plus doux, nous dit-on. On se retrouve lundi. Bye, bye.